Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Merci d'écouter Radio Kapi lundi matin devant le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. C'était pour exiger la reprise de cours. Le ministre Mouindou Zangui leur a promis que tout rentrera dans l'ordre cette semaine. 20 civils tués, bilan provisoire d'une nouvelle attaque des rebelles ougandais de l'EDF à Kikoura, localité du territoire de Beni au Nord Kivu. Conséquence, les habitants de la zone ont fui vers Nobili et Kamango. Notre invité, c'est le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Le capitaine Anthony Mualouchaï fait le point de la situation qui prévaut en ce moment dans les territoires de Lubero en proie à l'activisme des groupes armés. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir au micro. Pascal Masirika, mise en onde de Jean-Claude Nsiala. D'abord, cette nouvelle qui vient de nous parvenir. La visite du couple royal belge en RDC initialement annoncée du 6 au 10 mars prochain est reportée à une date ultérieure. Un communiqué rendu public ce lundi à Kinshasa par la présidente de la République précise que ces changements font suite aux événements malheureux en Ukraine et à la crise générale en Europe. Le communiqué de la présidence ajoute que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, et Sa Majesté le Roi Philippe de Belgique ont décidé de reporter cette visite et qu'un nouveau calendrier sera communiqué dans les tout prochains jours. Toujours à Kinshasa, les étudiants de l'ISP Gombe ont organisé ce lundi matin un sit-in devant le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire pour exiger la reprise de cours. Le ministre Mouindou Zangui leur a promis que tout rentrera dans l'ordre cette semaine. Le récit de Jean-Francis Mouya.
Les étudiants venus en sit-in ont bénéficié d'une oreille attentive de la part du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Mouindou Zangui dit avoir pris en compte leurs revendications et promet que la situation sera résolue d'ici vendredi.
Nous allons faire tout ce qui est possible pour que, avant la fin de cette semaine, les choses puissent se normaliser. À Kinshasa, la situation a été exacerbée par le fait que des reprises n'ont pas été faites dans cet établissement. Nous y travaillons pour qu'avant cette semaine, en tout cas, avant vendredi, cette situation puisse être réglée. Pour le reste, je vais demander aux enseignants de pouvoir eux aussi remettre encore un peu plus d'eau dans leur vin. Je le dis et j'insiste, il n'y aura pas d'année blanche. Nous allons tout faire pour éviter qu'il n'y ait une année blanche. L'état qui a été perdu sera récupéré.
Elena Eyadi, présidente des étudiants de cet établissement, saisit cette occasion pour lancer un message aux étudiants d'autres institutions publiques et les invite à prendre leur mal en patience.
Je lance un message de paix dans toute université publique, de se calmer parce que le ministre qui est chef tutelle de l'enseignement supérieur universitaire nous a rassurés cette semaine, la fin de la semaine, il y aura déjà la reprise des activités académiques.
Pour rappel, la rentrée officielle a eu lieu depuis le 5 janvier, mais depuis, les enseignants et autres sont toujours en grève.
Et puis, 12 personnes ont été brûlées lors de l'incendie de la baleinière à Bora au pont Gafoura dans la commune rurale de Maluku ici à Kinshasa. Le gouverneur de la ville était ce lundi au chevet des 7 brûlés internes à l'hôpital du cinquantenaire. Le médecin affirme que la plupart des brûlures ont atteint le 3e degré. Jean-Tiningo Bilambaka parle des morts lors du transfert vers l'hôpital et de 2 blessés sauvés de la noyade. On l'écoute dans cet extrait choisi par Babel Mpongo Massimango.
Le président provisoire fait état de 8 personnes brûlées. Sur le 8, il y en a une qui a perdu la vie. Il est mort depuis hier soir. Il est mort en cours de route. Il en reste 7 qui sont là hospitalisés en soins intensifs. Et en dehors des 7 qui sont hospitalisés, il y a 2 bébés qui étaient, eux, noyés, mais on les a sauvés. Ils sont en bon état. Par contre, les 7 autres sont dans un état assez critique. Ici, ils sont bien pris en charge par des médecins spécialisés. C'est un drame qui est arrivé suite à un incendie, même à une explosion dans une baleinière où l'on avait stocké des fûts de carburant. Et quelques temps après, le gérant a pris un coup de fil et dès qu'il a décroché son téléphone, il y a eu cette explosion-là. Et le président de la République a décidé que tous les soins soient pris en charge par le gouvernement de la République. Les enquêtes continuent. Peut-être dans les heures qui viennent, on saura qu'est-ce qui s'est passé réellement.
Notez qu'à la suite de cet incendie, Radio Okapi vous propose un dossier sur la problématique du transport sur les voies navigables en RDC. Faute de routes praticables et des liaisons aériennes suffisantes, les cours d'eau sont utilisés par les Congolais pour se déplacer dans le pays. Depuis quelques jours, Cynthia Bachizina Bizana s'intéresse à cette question. Voici son reportage.
7 ans sont passés, mais les souvenirs de ce naufrage sur le lac Kivu à Birava, dans le territoire de Kabaré, hantent toujours Bertin Boulonza.
Le capitaine qui nous conduisait, il a signalé que les bottes avaient connu une petite panne. Mais on a senti que les bottes en soi descendaient peu à peu dans l'eau. Et au finish, on a senti qu'on était déjà en train d'être avalé par l'eau. C'est là que tout le monde a commencé à crier. Parce qu'on voyait déjà s'embarquer avec des colis, avec des sacs, des braises, des maniocs, des haricots. On y mélange même des fois des animaux. C'était une panique, la débandade dans tous les, on nageait dans tous les sens. D'autres étaient carrément en train de nager comme moi. On a malheureusement, lors de ces drames, perdu 2 de nos concitoyens avec qui on embarquait. Quand moi je me rappelle de ces drames-là, je me dis, non, je peux plus prendre ces risques.
Beaucoup n'ont pas eu la chance de Bertin. En effet, entre 2019 et ce jour, nous avons comptabilisé plus de 400 personnes portées disparues dans les eaux congolaises. Quelles sont les principales causes de ces naufrages récurrents? Réponse dans notre reportage de demain. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Dans l'actualité, il y a également le Nord Kivu où au moins 20 civils ont été tués lors de l'attaque des présumés rebelles ougandais de l'EDF hier dans la localité de Kikura, groupement de Banyangala, secteur de Rwenzori dans les territoires de Beni. Selon des sources locales, les habitants de la zone ont fui vers Nobili et Kamango. La nouvelle est confirmée par les FARDC à Beni. Marc Marofimbo.
La société civile de la chefferie de Watalinga ainsi que les organisations des droits de l'homme soulignent que l'incursion de ces présumés EDF a eu lieu tard dans la nuit alors que la population était déjà plongée dans un profond sommeil. Ce lundi matin, les sources locales à Kikura parlent de 20 corps de civils retrouvés et d'un bilan qui pourrait s'alourdir parce que les fouilles se poursuivent. Une psychose généralisée s'est apparue des habitants qui ont quitté chez elles, renseigne la société civile. Certains ont pris la direction de Nobili, 3 km de la localité à et d'autres Kamango. Ce bilan n'est pas encore confirmé par l'armée qui reconnaît toutefois cette attaque. La société civile souligne que les assaillants se seraient retirés de Kikura et se cantonneraient aux environs de l'école primaire Moulihi qui est abandonnée depuis la recrudescence des attaques dans la région. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
En Ituri, pendant ces temps, des militaires du Soudan du Sud sont entrés hier dimanche après-midi en RDC par la localité de Karagba dans le territoire d'Arou situé à 260 km au nord de la ville de Bounia. Selon les autorités coutumières locales, ces militaires pourchassaient des rebelles qui combattent le pouvoir de Djouba. Lors de cette incursion, au moins une personne a été tuée et 2 autres grièvement blessés. De nombreux habitants ont fui la zone. À Bounia, Jean-Claude Lokidile.
C'est peu avant 9h que ces militaires munis d'armes légères et de fusils d'assaut ont franchi la frontière congolaise au village Karagba. À leur entrée, ils ont commencé à tirer des balles en l'air. C'était la panique générale, affirme un habitant. Dans la foulée, ces soldats se sont mis à piller des marchandises dans des boutiques. D'autres se sont dirigés vers le lieu où des bouviers étaient en train de paître les vaches. Ils ont emporté quelques bêtes. Au moins 5 jeunes ont été pris de force pour transporter les biens pillés. Certains parmi eux qui ont voulu résister ont été blessés. D'après un sécuriste, un jeune d'environ 25 ans, touché à la poitrine et mort sur place. 3 autres habitants ont été blessés et acheminés à l'hôpital général des références d'Adi. Ces militaires étrangers ont opéré en toute quiétude, indiquent des autorités coutumières. Alphonse Boudril, acteur de la société civile, plaide pour le renforcement de l'effectif des militaires et des FARDC dans la zone. Le porte-parole de l'armée en Ituri parle des affrontements qui ont eu lieu sur le sol congolais entre l'armée du Soudan du Sud et les rebelles de ces pays. Le lieutenant Jules Ngong indique qu'une équipe du gouvernement provincial se rendra dans les prochains jours sur place pour résoudre ce problème. Bounia, Jean-Claude Lokidile, Radio Okapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où le président de l'Assemblée provinciale enveilleuse dénonce des arrestations récurrentes des députés provinciaux à cause de leur position sur l'état de siège. En congé pendant cette période exceptionnelle, Robert Seninga a indiqué que son organe délibérant attend saisir les autorités compétentes pour obtenir la libération des 2 députés provinciaux qui sont arrêtés depuis plusieurs semaines à la prison centrale de Mouni. Mounzenze. Il s'agit de Didier Lukuho, élu du territoire de Lubero, et de Jean-Paul Ngahangondi, élu du territoire de Beni. Ces propos ont été recueillis par Sifa Magourou.
Vous savez qu'avec ce que nous traversons comme état de siège, nous devons faire l'étoile à la fois. On doit faire une mission diplomatique, des relations avec d'autres institutions, parce que en principe, quelqu'un ne peut pas être arrêté parce qu'il a présenté son opinion. C'est logique. Mais comme vous savez, nous sommes dans un état exceptionnel. C'est ce qui fait que ces problèmes arrivent. Mais normalement, c'est cet état de siège, enfin la liberté d'expression des députés. Et nous, nous disons non. Ce que nous pouvons faire, c'est effectivement essayer de parler avec ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui, ainsi que leurs chefs, pour voir comment cela peut être assoupli. Sinon, la situation demeurera comme telle, d'autant plus qu'on commence à miser les députés, ce qui est anormal.
J'ajoute que nous n'avons pas réussi à joindre l'auditeur militaire pour avoir sa réaction. Dans un autre chapitre, il y a flambé de la grippe à Mokala dans le territoire d'Idiofa, dans la province du Kwilu. Le ministre provincial de la Santé publique affirme que sur 20 tests Covid réalisés, 19 sont déclarés positifs. En attendant la riposte, Dr Bena Mutui appelle la population au respect des gestes barrières. Il a été joint par Irène Boma.
Dans quelques zones de santé de Idiofa, où on est en train d'investiguer, à Mokala, il y en a beaucoup, où on a fait, ils avaient 20 tests de Covid, ils ont fait 2 au relevé positif. Là, nous sommes en train de déployer une équipe pour descendre à Mokala, aller avec les tests pour voir comment ils peuvent faire le dépistage de tous ces cas dans la zone de santé de Mokala. Le nombre de cas de grippe, difficile à vous dire, c'est parce que c'est comme ça a été ici, comme partout, il y a beaucoup de cas de grippe, comme on dit, mais ils avaient 20 tests où ils ont réalisé les 20 tests de Covid. Parmi les tests réalisés, 2 ont relevé positifs. Est-ce que c'est Covid-19? Est-ce que c'est d'autres cas de grippe atypique? Ça, on ne sait pas. Mais au moins, il y a 2 cas de Covid-19. Dans ce contexte, nous disons, bon, il y a des cas de Covid, parce qu'il y a 2 cas de Covid-19, nous avons 2 cas de Covid-19. Mais ce que nous faisons à l'heure actuelle, c'est de déployer une équipe qui est en train de descendre avec le test et les autres intrants, et même les médicaments, pour voir comment ils peuvent riposter contre ça.
Partons maintenant pour le Sud Kivu où l'archidiocèse de Bukavu tire la sonnette d'alarme sur la présence de faux prêtres dans la ville. Ces personnes seraient en train de percevoir de l'argent auprès des tiers au nom de l'Église catholique. Cette alerte de l'Église catholique est contenue dans un communiqué du vicaire général de l'archidiocèse. À Bukavu, explication d'Emmanuel Elemejo Kabedi.
Le communiqué de l'archidiocèse de Bukavu est signé par le vicaire général, Mgr Floribert Bashimbe. Il affirme ceci, je cite, « Il y a des personnes qui circulent dans la ville de Bukavu en se présentant comme des prêtres ou des diacres en stage. Ils prennent de l'argent, des tierces au nom de prêtres de l'archidiocèse de Bukavu. En d'autres termes, ce sont des escrocs, ne vous laissez pas tromper. » Fin de citation. Toute personne victime de cette forme d'escroquerie est appelée à saisir la paroisse catholique la plus proche pour s'en rassurer. Toutefois, le communiqué précise qu'il y a des prêtres originaires de l'archidiocèse de Bukavu qui travaillent ailleurs, mais qui viennent souvent en vacances en famille. Il leur est demandé de se présenter auprès de prêtres de la paroisse la plus proche de là où ils passent leurs vacances. Rappelons qu'il y a quelques années, toujours à Bukavu, de vrais faux prêtres catholiques avaient été arrêtés en train de dire la messe dans certaines paroisses catholiques. Emmanuel Elamejua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Autre nouvelle en plus bref au Kasaï, 52 détenus se sont évadés de la prison d'Ilebo hier soir. Des sources locales rapportent qu'ils ont profité d'une inattention des gardes de la prison pour s'enfuir. La nouvelle est confirmée par l'administrateur du territoire d'Ilebo qui déplore aussi l'état piteux de cette prison centrale qui date de l'époque coloniale. François Kaboulois affirme que 32 détenus sont dans cette prison où la sécurité a été renforcée et que les recherches sont en cours pour retrouver les fugitifs.
Actualité internationale.
Ouverture ce lundi au Burkina Faso des Assises nationales sur la transition. Une rencontre au cours de laquelle seront débattues autour de la table les propositions de la commission technique mise en place récemment par la junte au pouvoir pour réfléchir sur la charte et l'agenda de la transition. La rencontre devra déboucher sur l'adoption de cette charte et la feuille de route de la transition proprement dite. Et puis au cinquième jour de l'invasion russe en Ukraine, les négociations entre la Russie et l'Ukraine ont débuté en Biélorussie. Un second tour des pourparlers est envisagé par les deux parties. Les Ukrainiens exigent un cessez-le-feu immédiat et le retrait des forces russes. Convoqué en session extraordinaire d'urgence, l'Assemblée générale des Nations unies à New York s'ouvre aujourd'hui.
L'invité.
Notre invité, c'est le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Le capitaine Anthony Mualushai fait le point de la situation qui prévaut dans les territoires de Lubero en proie à l'activisme des groupes armés. Il s'entretient avec Marc Marofimo.
Monsieur le capitaine Anthony Mualushai, bonjour.
Bonjour Radio Capi.
Les commandants secteur opérationnel Sokola 1 a séjourné 3 jours durant dans la partie sud du territoire de Lubero. On peut avoir une idée sur l'objectif de sa mission?
Exactement, c'était pour se rendre compte de la situation sécuritaire actuelle, surtout dans les territoires de Lubero et aussi dans la chefferie de Bachou. Là, nous sommes dans les territoires de Beni. En fait, le commandant secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, depuis sa nomination, n'avait pas encore fait un voyage officiel sur l'axe sud pour se rendre compte de la situation sécuritaire et aussi de la relation entre les civils et les militaires. Et il faut qu'ils sachent comment il y a cette cohabitation entre la population et son armée.
Et sur terrain, qu'est-ce que le commandant a constaté comme situation sécuritaire?
Sur terrain, la situation a vraiment évolué positivement parce que n'oubliez pas que dans la partie sud de Lubero, il y avait l'activisme vraiment des groupes Mai Mai qui dérangeaient vraiment la population. Il y avait des cas d'assassinat. Je peux rappeler l'assassinat du père Richard Massivi, prêtre de la paroisse catholique de Kasenge, qui a été assassiné par les hommes. Nous avons déjà 2 suspects qui ont été arrêtés par nos services de sécurité et transférés à l'auditorat militaire. Donc c'est vraiment un acquis. Il a fallu que le commandant secteur aille palper du doigt à ce terrain sur la cohabitation de la population et son armée dans la commune de Kurumba, parce que là aussi il y avait des couacs, surtout à la fin de l'année passée. Nous avons échangé avec les autorités, avec la population, avec d'autres structures de la jeunesse et nous avons compris que la situation a beaucoup évolué, mais la population a demandé l'augmentation des effectifs militaires et policiers dans Kirumba et aussi à Kanyabayunga pour sécuriser davantage la population. Et on nous a informé également qu'il y a quand même d'autres groupes Maïmaï qui continuent à naître, malheureusement, qui s'attaquent aussi à la population civile, surtout aux cultivateurs. Et le commandant a donné l'ordre au commandant de Kanyabayunga et de Kirumba d'intensifier davantage les opérations de patrouille de combat pour traquer ces jeunes qui ne veulent pas mettre à côté les armes.
Monsieur le capitaine, de tout ce que vous avez reçu comme recommandation de toutes les couches de la population, société civile ainsi que les autres, par rapport à la situation sécuritaire, l'armée pense mettre quel type de mécanisme afin de remédier à la situation sécuritaire qui prévaut dans la région?
Le seul mécanisme le plus efficace, c'est la collaboration entre l'armée et sa population. Donc, nous travaillons sur base des informations que nous récoltons au niveau de la population. Quand la population nous donne l'information, nous les transformons en renseignements et nous agissons. C'est ce qui a permis même aux militaires qui sont dans la chefferie de Bachou à mettre la main sur un réseau de malfaiteurs qui avait, n'est-ce pas, mis fin à la vie d'un chef coutumier. C'est grâce à cette collaboration, c'est grâce aux informations nous données par la population de Bachou. Depuis un certain temps, nous avons toujours dit qu'au-delà des ADF qui commettent des actions de terrorisme dans notre région de Beni, il y a aussi les enfants du terroir qui se sont enrôlés dans le groupe Mai Mai et qui profitent et pour commettre des actions. Aujourd'hui, nous avons mis la main sur plus de 5 jeunes qui se réclament du Mai Mai dans le Bachou. Tous sont du même village et malheureusement, qui tuent les frères. C'est inacceptable, c'est incompréhensible. Personne ne peut comprendre ça. Comment un Congolais peut tuer un Congolais? pour ses intérêts. On n'arrive pas à comprendre. Le seul message que je peux lancer aux jeunes qui n'arrivent toujours pas à comprendre, c'est que la vie humaine est sacrée. Même leur vie est sacrée. Donc, ils doivent comprendre et quitter vite la bourse et regagner les milieux pour le développement de leur région. Nous sommes obligés de travailler ensemble. Et travailler ensemble, ce n'est pas aller rester en bourse. Nous devons travailler pour le développement de nos milieux. Si nous avons besoin de manipuler les armes, l'armée est là. Il suffit de s'enrôler officiellement et aller servir les pays sous drapeau national.
Capitaine Anthony Malouchaï, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Capi, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le capitaine Anthony Malouchaï, interrogé par Marc Marofimbo. Il est 18h20 à Kinshasa, c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Merci à Élisée Tchikoda Mwamboui qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pélékipé Lamondo. Retrouvez-les sur www.radiocapi.net. Bonsoir à tous. Nous commençons par le basketball avec les Léopards de la République démocratique du Congo qui se sont qualifiés pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Cela malgré la défaite enregistrée 51-62 face au Pharaon d'Égypte.